La relève, c'est 15 minutes, une semaine sur deux avec les talents d'aujourd'hui et donc de demain. Aujourd'hui, on va parler de famille dysfonctionnelle et de révolution poétique. Mon invité s'appelle David Levailly. Bonjour David Levailly. Vous venez d'écrire L'autre Rimbaud aux éditions de l'Iconoclaste et vous êtes d'ores et déjà sur la deuxième sélection du prix Renaudot. C'est important pour un écrivain d'être sur les listes de prix?
C'est une forme de reconnaissance, c'est pas la seule, mais oui, je vais pas vous cacher que j'ai été particulièrement heureux et flatté et d'être sur cette liste. C'est un prix assez prestigieux et c'est une forme de reconnaissance par rapport à un travail qui est long et qui m'a demandé beaucoup de temps, d'énergie, et voilà.
On fait quoi ? On regarde les précédents récipiendaires du prix et on se dit « je vais peut-être être un jour dans cette liste glorieuse ».
Non, pas forcément. Non. J'en connais quand même quelques-uns, donc je n'étais pas totalement ignorant sur ce point-là. Et puis, évidemment, ça fait partie d'une histoire. On connaît le Renaudot, on sait que Céline a eu le Renaudot, par exemple. Hein. C'est quand même dans les grandes signatures.
Il a été créé parce que le Goncourt n'avait pas été donné.
Non, le Renaudot, il voulait avoir. Enfin, il n'a pas eu le Goncourt, en effet, il a eu le Renaudot.
Mais, oui, c'est mais, ça, pardon.
Je crois qu'il a été créé, je ne suis pas sûr qu'il ait été créé spécifiquement pour lui, je ne pense pas.
Alors, vous, les Ardennes vous font rêver, comment vous expliquez ça?
Ah, je sais pas, c'est totalement exotique, moi, les Ardennes. En fait, c'est totalement exotique. Je dis pas ça de manière péjorative hein, pour les gens qui habitent dans les Ardennes, pas du tout. Mais simplement, c'est vrai que quand j'ai découvert l'existence du frère d'Arthur Rimbaud, que j'ai découvert que Arthur Rimbaud avait eu un frère qui était conducteur de calèche, qu'il était conducteur de calèche, d'après ce qu'on me disait, de la gare d'Attigny à l'hôtel d'Attigny. Attigny, c'est un tout petit bourg donc, qui est au sud de Charleville-Mézières. Moi, ça m'a fait totalement fantasmer.
Plus que l'Abyssinie de Rimbaud?
Ah oui, parce que l'Abyssinie, quelque part, c'est vu et revu. Il y a eu des dizaines, des centaines de livres qui ont été consacrés au périple de Rimbaud en Abyssinie. Sur Attigny, avoir ce frère... Et en fait, je sais pas, je me suis fantasmé sur cette ligne d'omnibus, en fait. C'est-à-dire un omnibus, je me suis dit, mais c'est quoi un omnibus à l'époque? Ouais. Donc en fait, c'est une calèche, hein, c'est tout simplement une calèche. Et je me suis vu sur cette ligne, en train d'arpenter cette ligne d'omnibus, en train de dormir à Attigny, de dormir à Roche, qui est un hameau juste à côté, qui est le fief de la famille Rimbaud. Je sais pas, ça m'a vraiment donné envie d'y aller et donné envie de découvrir. Et je trouve qu'en fait, souvent une histoire, elle passe par les lieux. Je trouve que les lieux, c'est vraiment un point de départ très important.
Donc là, vous avez été vous imprégner de l'ambiance de l'endroit.
Ah oui, vraiment, j'ai passé énormément de temps à la fois à Charleville-Mézières, évidemment, parce que c'est là où on trouve la médiathèque, on trouve les archives départementales, on trouve énormément de sources, en fait. Hein. Et puis les lieux, la campagne ardennaise, cette terre très plane, ce côté assez parfois un peu qui peut être effrayant hein, l'hiver à 18h à la nuit tombée mais c'est quelque chose en fait on peut pas comprendre cette histoire si on n'est pas dans les lieux expliquent beaucoup de choses et expliquent les tempéraments je crois.
Alors L'autre Rimbaud est un récit qui narre comment la famille d'Arthur Rimbaud a littéralement caché l'existence de Frédéric Rimbaud, son frère. L'histoire va loin, on va le retirer des photos comme on l'a vu faire dans des régimes totalitaires. Mais avant de continuer, je dois vous demander de porter votre masque parce que ça fait partie des consignes sanitaires dans le
D'accord.
studio et que sinon je vais me faire disputer. Je suis désolé pour nos auditeurs, comme ça vous saurez que nous sommes masqués dans le studio.
Voilà, exactement.
Moi je veux savoir comment vous aviez trouvé l'histoire du frère semi-caché parce qu'on en a un peu parlé, Pierre Michon en parle, vous le dites vous-même.
Alors, au départ, moi, je ne savais pas donc qu'Arthur Rimbaud avait eu un frère. J'ai découvert par Pierre Michon. Alors, il y a une sœur, ça, on le sait, puisqu'il a écrit des livres. Je ne sais pas qu'il a eu un frère. Donc, c'est Pierre Michon, qui, au cours d'une émission de radio, qui m'apprend, en fait, qu'il a eu un frère et que ce frère était conducteur de calèche, comme je le disais. Le fait qu'il ait été effacé par la suite, ça, je l'ai découvert par mes recherches. C'est-à-dire que c'est vraiment... j'ai découvert qu'il avait été non seulement effacé d'une photo, mais pas seulement effacé, on n'a pas coupé la photo en deux. Hein, c'est la photo de leur première communion.
Ouais.
Ils ont 12 et 11 ans, c'est la couverture de mon livre d'ailleurs.
C'est la couverture et la première
et
de couverture.
La première page. Et c'est-à-dire que quand on voit la dernière page du livre, justement, vous avez la photo qui va devenir le portrait. C'est-à-dire qu'on en a fait un portrait d'Arthur Rimbaud et on a véritablement gommé. On voit qu'on a même réajusté l'épaule d'Arthur Rimbaud parce que sur la photo originelle, il faut savoir que le frère prend énormément de place et donc pousse Arthur Rimbaud sur le côté et que j'imagine que, en tout cas, c'était mal vu d'avoir Arthur Rimbaud dans une position qui était un peu inconfortable, et évidemment il fallait effacer ce frère. Ça, c'est la première chose. J'ai découvert par la suite qu'on avait aussi découvert, alors ça, c'était connu, mais que tous les passages dans la correspondance entre Arthur Rimbaud et sa famille, tous les passages concernant ce frère, Frédéric, ont été effacés. C'est-à-dire que quand cette correspondance a été publiée, tous les passages sur le frère ont été délibérément biffé. Donc il y a vraiment une volonté familiale d'effacer ce frère. Pourquoi il fallait effacer ce frère. Évidemment, ça, c'était mon interrogation et ça a été un de mes moteurs, un des moteurs de ma recherche. Mais c'est vrai que le point de départ, au début, je ne sais pas que ce frère a cette histoire-là, je ne sais pas qu'il est effacé. Le point de départ, je vous dis, c'est l'opposition de destin. D'un côté, un génie, Arthur Rimbaud, de l'autre, conducteur de calèche, à l'esprit, finalement, d'après ce qu'on dit, d'après les racontars, quelqu'un plutôt simple, modeste, bon vivant, fêtard. Voilà, c'est comment on peut avoir deux êtres qui ont des destins aussi opposés, qui ont été élevés dans les mêmes conditions.
Vous écrivez « Se consacrer aux vaincus, aux effacés, aux oubliés, c'est prendre le risque de rejoindre leur bataillon, de devenir à son tour un vaincu, un effacé, un oublié ». C'est quelque chose qui vous a fait peur ? Vraiment ? Vous avez eu peur ?
Non, en fait, cette notion de raté est pour moi extrêmement importante. C'est une notion dont j'ai beaucoup entendu parler dans mon enfance. Souvent on disait « mais si tu vas finir comme un raté, hein. Je ne travaille pas à l'école », etc. Voilà, c'était vraiment, il y avait quelque chose d'obsessionnel hein, autour de ça. Et évidemment, ce Frédéric Rimbaud, le mot, l'adjectif qui était le plus collé à la peau, c'était « raté ». C'était le raté de la famille.
Vous citez même des biographes de Rimbaud qui sont très durs avec lui. On a l'impression qu'eux aussi
sont terribles. Ils sont terribles. Alors, ce qui est d'autant plus terrible, c'est que ces fameux biographes ne se sont jamais vraiment intéressés sur la figure du frère d'Arthur Rimbaud. En fait, ils ont repris pour l'essentiel une phrase d'Arthur Rimbaud qui est écrite dans une lettre où il dit « ce frère est un idiot, nous l'avons toujours su ». Mais en fait, cette phrase, elle s'inscrit dans un contexte familial où le frère d'Arthur Rimbaud veut se marier. Frédéric Rimbaud veut se marier avec une femme en dessous de sa condition, avec une fille de paysan pauvre. Et la mère va lui intenter 2 ans de procès pour l'empêcher d'épouser cette femme. Et Arthur Rimbaud va prendre le parti de sa mère, lui l'apôtre du dérèglement de tous les sens, sur ce, va avoir des considérations extrêmement bourgeoises même, en disant à un moment, mais quand on n'a pas d'argent, on ne se marie pas. C'est vraiment texto dans ses correspondances, et c'est vrai que je pense que mon livre est le portrait de Frédéric Rimbaud, au-delà de la vie d'un conducteur de calèche dans les Ardennes, raconte en creux, et c'est ça que je pense qui apporte quelque chose peut-être à l'histoire d'Arthur Rimbaud, une autre facette d'Arthur Rimbaud. Parce que c'était d'Arthur Rimbaud, on connaît le poète, on connaît le négociant, le marchand d'armes en Abyssinie. Je pense qu'on connaissait moins l'aspect élément d'une cellule familiale. Voilà, et il est élément d'une cellule familiale, au même titre qu'un frère, au même titre que sa sœur. Et dans cette cellule familiale, il joue un rôle, et un rôle qui n'est pas forcément toujours très positif, très reluisant, voilà.
Qu'est-ce qui vous fascine dans ces histoires de personnages cachés ? Votre précédent ouvrage, La captive de Mitterrand, était une enquête sur Anne Pinjot, la compagne secrète de François Mitterrand, la mère de Mazarine. Ça fait 2 livres où vous vous intéressez à des gens qu'on a voulu cacher.
En fait, je crois que je suis fasciné par le silence, par les gens qui sont contraints ou de leur propre volonté, font le choix du silence. Et je trouve qu'on est dans une époque, évidemment, où le silence est rare, très rare, où les gens se battent pour avoir la parole, prendre la parole. Et le côté sans voix, c'est-à-dire que ce soit Anne Pinjot ou Frédéric Rimbaud, en effet, ce sont des gens qui n'ont pas eu la parole. Et leur donner la parole, leur restituer une histoire, c'est quelque chose, en effet, qui, moi, est un moteur important.
La Relève, sur Radio Campus Paris.
Toujours avec David Le Bailly pour L'Autre Rimbaud, paru aux éditions Iconoclaste. Alors dans ce livre, on ne dirait rien si on disait que ce n'est qu'une enquête sur Frédéric Rimbaud, le frère d'Arthur Rimbaud. C'est aussi vos réflexions sur cette recherche. Vous tenez un peu une sorte de journal, en tout cas, où vous racontez comment cette histoire vous a aussi, comment elle a fait écho en vous. Et il y a un passage que j'aime beaucoup, où vous parlez donc de tous les frères maudits dans la littérature ou dans l'histoire. Et puis aussi de vous, qui êtes un enfant unique, si je me souviens bien, et qui peut-être à un moment ou un autre a fantasmé un frère. Et puis vous dites cette phrase terrible à propos de vos amis. Donc vous leur demandez s'ils ont des frères. Visiblement, c'est une question qui vous obsède. Et vous dites « Plusieurs ont d'ailleurs eu cette phrase. Mon frère, je ne l'aurais pas choisi comme ami. » Ça résume le livre ou...
En tout cas, ça résume en effet la relation que Frédéric et Arthur vont avoir. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que Frédéric et Arthur, bon, ils ont moins d'un an d'écart. Frédéric est un personnage extrêmement important parce que Frédéric et Arthur ont été élevés quasiment comme des jumeaux. Ils ont partagé la même chambre, ils ont partagé la même éducation, ils ont partagé les mêmes jeux, ils ont été extrêmement proches.
Ils ont fait
leur communion et il faut savoir qu'au lycée, par exemple, on les voyait toujours ensemble et à l'écart des autres. Donc ils ont une relation extrêmement forte. Et à partir de leurs 15 ans, leurs chemins ont pris ils ont pris des chemins différents. L'un est allé en effet vers la poésie, et l'autre, Frédéric, voulait marcher sur les pas de son père, qui était militaire, hein, qui était capitaine et chevalier de la Légion d'honneur, et lui-même s'est engagé dans l'armée au moment de la guerre contre la Prusse. Et là, ils vont prendre deux directions totalement opposées, et ils vont en effet avoir une distance. Il faut savoir que Frédéric a continué toute sa vie à être extrêmement admiratif envers son frère. Il continuait à commander des revues spécialisées en poésie. Il était, contrairement à ce qu'on dit, c'était pas du tout un benêt, un simple d'esprit, mais il était intéressé par la poésie. Et même 10 ans après la mort d'Arthur, il assiste à l'inauguration du buste d'Arthur Rimbaud sur la place de la gare à Charleville.
Qui n'est pas pour plaire à sa mère d'ailleurs.
Et alors sa mère, justement, quand elle apprend que Frédéric Rimbaud va assister à cette inauguration, décide de ne pas assister elle-même à cet événement, parce qu'elle ne veut pas supporter, ne peut pas supporter l'idée d'être assise à côté de son fils. Voilà, donc c'est vraiment il y a eu un conflit extrêmement fort. Le vrai qui te coulait, le fils vraiment, le fils maudit de cette famille, c'est véritablement Frédéric. C'est vraiment ça, le c'est vrai que dans cette histoire familiale, voilà, il y a le poète maudit et il y a le fils maudit.
Oui, on voit toute la puissance des liens familiaux quand d'amour il passe, on peut dire, la haine. Et en plus, ce fils Frédéric, qui est une espèce de, je sais pas comment dire, de fierté quasiment, à signer ses lettres à sa mère, conducteur d'omnibus à Attigny, comme un titre de gloire.
Conducteur d'omnibus à Attigny et même domestique à Attigny, ce qui est pour elle. Enfin, c'est vrai que quand on parlait pourquoi Frédéric Rimbaud a été effacé, c'est vrai, il y a deux choses en tout cas intéressantes. Et il a été effacé parce qu'il était le raté, domestique, conducteur de calèche, donc c'était une sorte de déclassement pour la famille, c'était une obsession en effet. C'est une famille de, faut savoir que la famille d'Arthur Rimbaud était une famille de notables.
Oui, c'est pas des paysans comme on pourrait croire.
Non, c'est pas des paysans, c'est des gens qui avaient des terres, qui étaient propriétaires terriens, et donc pour eux la réputation était très importante. Et la deuxième raison, c'est qu'en fait quand Arthur Rimbaud meurt, la mère et la fille découvrent poésie d'Arthur Rimbaud.
C'est comment on fabrique le mythe.
Exactement, et elle découvre en fait que Arthur Rimbaud a des fidèles, a des gens, que Arthur Rimbaud a été blasphémateur, qu'un comportement à Paris qui a été scandaleux, qu'il a eu une relation avec Verlaine. Et donc évidemment il faut faire taire les voix dissonantes, les voix qui peuvent donner une autre version des choses. Et évidemment Frédéric Rimbaud, lui, quand il va être contacté pour donner les droits des poèmes d'Arthur Rimbaud, il va dire oui tout de suite. Et quand Isabelle et la mère vont apprendre
Isabelle, c'est donc la sœur.
Isabelle, c'est la sœur. Évidemment, elles vont tout faire pour récupérer les droits d'auteur sur l'œuvre d'Arthur Rimbaud, pour demander parfois à certains biographes de réécrire les poèmes d'Arthur Rimbaud. C'est une obsession du contrôle et de la réputation qui va très loin.
Ce qui est fascinant, c'est que là, on a des gens qui veulent l'argent du beurre, mais pas le beurre. Quoi. Ils veulent l'argent de Rimbaud.
Alors, je nuance juste votre propos, parce qu'à l'époque, je pense que l'argent est moins ce qui compte que la préservation d'une réputation. Parce qu'on est dans un milieu très catholique, et il va y avoir cette légende selon laquelle Arthur Rimbaud était parti en Afrique pour évangéliser les peuples de la région, qu'il s'est converti, il est retourné au catholicisme sur son lit de mort. Et vraiment, ce sont des choses très importantes qui ont bâti la légende d'Arthur Rimbaud et que l'on retrouve encore aujourd'hui. C'est vraiment des choses qui sont très importantes encore. On a bâti cette légende, c'est le socle sur lequel se sont construites, écrites toutes les histoires ultérieures d'Arthur Rimbaud.
Vous pensez que, et on a très peu de temps pour répondre, vous avez à peu près 30 secondes. Vous pensez que cette histoire, ça, elle a un écho, pas dans la polémique sur la panthéonisation possible dans Arthur Rimbaud?
Alors, je ne sais pas si elle a un écho. En tout cas, cette histoire de panthéonisation me hérisse le poil, parce que c'est vraiment ne pas comprendre tout ce que Arthur Rimbaud n'était pas. C'était exactement, c'est institutionnel. Le panthéon, c'est l'institution en personne. La vie d'Arthur Rimbaud, c'est une vie marginale, en dehors des marges, en dehors des institutions. Vouloir mettre Rimbaud au panthéon, je trouve que c'est une véritable absurdité, et au prix notamment de contre-vérités qui sont énoncées par les uns et par les autres. Mais voilà, mais c'est un autre débat.
Et puis on n'a plus le temps malheureusement. Juste pour finir, je voudrais citer une dernière phrase. C'est un extrait d'un documentaire qu'on peut voir sur le site de l'INA, où ce sont des ancêtres de Frédéric Rimbaud, à qui on demande...
Ce sont les filles de Frédéric Rimbaud.
Ouais. C'est dans les années 50, on est quand même bien longtemps après l'histoire, et ils disent puisque nous ne touchons pas de droits d'auteur, nous achèterons ces livres quand ça tombera dans le domaine public. Je trouve que ça dit tout sur cette famille et ses conflits. Voilà, c'était La Relève.
Merci
avec
beaucoup,
David Le Bailly, auteur de L'Autre Rimbaud, aux éditions L'Iconoclaste. L'émission était réalisée par Elodie, merci beaucoup à elle. C'était préparé et présenté par Christophe. Vous trouverez toutes les informations sur le site internet de Radio Campus Paris, rubrique La Relève. Dans 15 jours, tout de suite, vous retrouvez la suite de votre programme, et à 19h, la matinale.
www.radiocampusparis.org.
La Fresh List, la crème de la crème des dernières sorties musicales sur Radio Campus Paris.
Maman. Maman. Maman, tu es la seule femme que je n'ai pas envie de débaucher. Maman, tu es la seule femme avec ma fille et ma...